Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Ah oui, non mais c'est difficile à prononcer, mais pensez à l'altitude, à la branchitude, à la couragitude, enfin non, je galège bien sûr. Estivalitude, donc, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Alors je sais, ce sont des horaires courts, mais enfin c'est l'été, c'est le temps des vacances, j'oublie tout. Et que fait-on l'été? On fait connaissance, et c'est un peu le cœur de l'émission, autour d'un café.
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
À bâbord, oui, aujourd'hui c'est un bateau, hein, pourquoi pas. Philippe Besson, écrivain imperturbable qui trace un sillon personnel aux confins d'une écriture héritant de Duras autant que de Sagan. Avec son dernier livre « Dîner à Montréal », il nous invite au restaurant pour une étonnante pièce de théâtre sans dialogue dans laquelle on parle assez peu gastronomie. À tribord, l'un de nos plus célèbres pédiatres, Aldo Nauri, il en a soigné des gamins, il ne les compte plus, mais il se penche aujourd'hui dans des bouts d'existence sur ses premières années, j'allais dire ses premières décennies, et ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Alors je vous présente Aldo Nauri, Philippe Besson. Philippe Besson, Aldo Nauri, Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Ça veut dire quoi?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Bonjour Philippe Besson.
Bonjour Christophe Bourseiller.
Alors Philippe Besson, j'aimerais démarrer notre petite rencontre par une phrase de Philippe Besson, extraite de votre dernier livre. « Mon existence n'est que du sable, et le jeune homme à mes côtés, même si je l'aime tendrement, est encore un étranger et le demeurera sans doute. » L'amour pour vous, Philippe Besson, et c'est un peu ce qu'on ressent dans votre livre, c'est l'addition des solitudes?
C'est souvent ça, oui, c'est être seul ensemble. C'est l'idée qu'on est avec quelqu'un, et parfois on est d'ailleurs assez heureux et assez joyeux et parfois même épanoui, mais qu'en même temps on reste soi et qu'on a la conviction, en tout cas moi, de la précarité de ces liens-là, que sans doute les choses ne dureront pas vraiment longtemps. En tout cas pendant longtemps, j'ai pensé que ça ne durerait pas, c'est-à-dire que j'étais avec des êtres et que j'aimais tendrement, qui peut-être m'aimaient en retour, mais dont je pensais que nous ne passerions pas notre vie ensemble. Donc il y avait cette idée, oui, de la précarité.
Qui est très présente dans votre livre « Dîner à Montréal », puisque justement, vous parlez d'un amour lointain, 1989, et qui n'a pas duré. Oui. L'idée que l'amour fusion, ça n'existe pas, en quelque sorte, hein, c'est un peu ça. Alors nous sommes donc dans un restaurant de Montréal, le livre n'est qu'un dîner.
Hein, oui, absolument.
C'est d'ailleurs assez fort de concevoir un roman qui se passe dans un espace temporel clos. Alors évidemment, je pensais en vous lisant à un film oublié qui m'est cher, My Dinner with André de Louis Malle. Vous m'avez rappelé que c'était en 1981. Et ce qui est très fort, c'est que c'est une pièce de théâtre, à l'évidence, mais sans dialogue.
Oui. Je voulais le dispositif théâtral. C'est-à-dire, je voulais l'unité de temps, de lieu, d'action. Je voulais enfermer les personnages dans un lieu comme ça et qu'ils ne puissent pas s'en échapper. Parce qu'il y a cette idée que quand vous êtes là autour d'une table, là en l'occurrence ils sont quatre, vous pouvez pas vous en aller, vous pouvez pas fuir et vous pouvez pas non plus échapper à la vérité. C'est-à-dire qu'au début la conversation est un peu ordinaire, banale, on parle de l'actualité, de choses et d'autres. Et à un moment quand même, vous êtes obligé d'en arriver à l'essentiel, à poser vos névroses, vos obsessions, vos intimités sur la table. Mais là évidemment, ça passe beaucoup par des non-dits, des silences, des murmures, des regards appuyés. Enfin, il y a l'idée qu'il faut trouver une façon de se parler sans se parler vraiment.
Il y a deux personnages principaux, vous et puis Paul Darigrand, et puis il y a deux personnages secondaires assez touchants. D'abord, il y en a un qui est beaucoup plus jeune que vous, qui est votre ami avec qui vous dînez, donc, oui. Antoine, oui. Qui en même temps est un type très fin, très intelligent, oui. Mais qui a une espèce d'humour de distance. Enfin, on n'est vraiment pas dans la fusion, on est dans, il est conscient du temps qui passe et il est conscient de la précarité de l'amour, lui, plus
oui,
que jamais.
Oui, pour le coup, oui. C'est un vibrion, c'est quelqu'un comme ça qui est très jeune, il est dans cette espèce de légèreté, de désinvolture, d'insouciance, ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs, parce que j'aime sa ferveur et en même temps l'idée que pour lui rien n'a d'importance, que rien n'est grave et qu'on verra bien demain et que peut-être il n'y aura même pas de demain. Et j'aime bien ça et donc je me frotte à sa jeunesse. Oui, c'est
et
ça.
Puis alors il y a un autre personnage qui est très touchant aussi, c'est Isabelle, la femme de l'homme que vous avez aimé. Elle sait que cet homme que vous avez aimé donc a une tendance homosexuelle et elle l'aime quand même. Et donc ils sont dans une relation de couple, ça c'est compliqué et un peu énigmatique ce qui se joue entre elle et son mari.
Bah parce que c'est une femme assez formidable. Moi, je l'ai beaucoup aimée, cette femme, parce qu'elle aimait profondément son mari, qu'elle était convaincue que son mari resterait avec elle, quand bien même il aurait des désirs souterrains ou des désirs pour d'autres. Elle a tenu bon, Voilà, il y a,
c'est comme si le désir n'était pas au cœur du couple.
Oui, absolument. C'est autre chose qui se joue entre eux, qui est justement peut-être la durée, l'idée qu'on va être ensemble, coûte que coûte, et que ça tiendra jusqu'au bout. C'est comme un repère pour lui, c'est comme un phare ou une balise. Et moi, j'étais autre chose. J'étais un type un peu dangereux. J'étais là, la part d'ombre, la part d'obscurité. J'étais l'idée que s'il m'avait choisi, il aurait une vie plus périlleuse, qu'il aurait dû vivre sans doute à l'abri des regards. Là, il peut être en pleine lumière avec elle. Elle, c'est la lumière.
Mais c'est vrai, Aldo Nahouri, c'est vrai que le désir n'est pas forcément le ressort principal du couple. C'est-à-dire qu'un couple peut tenir pendant des décennies, soudé par autre chose que la simple attirance sexuelle.
Oh ben ça, c'est certain. Vous n'avez qu'à prendre le cas des mariages arrangés qui existent dans la plupart des parties du monde.
Ouais, mais les gens ne sont pas toujours heureux.
Oui, mais est-ce que les mariages non arrangés rendent les gens heureux? Est-ce que les unions non arrangées rendent les gens heureux? Je ne suis pas sûr du tout. Je veux dire que là, on est dans un dispositif où les nuances sont tellement importantes qu'en définitive, on ne peut pas poser de généralité. Vous voyez, et c'est... Bon, c'est toujours délicat.
Vous racontez quand même une histoire d'amour. Ce qui se joue, c'est qu'il y a ces retrouvailles entre vous dans un salon du livre ou dans une librairie où vous dédicacez votre livre à Montréal. Mmh. Et là, il y a un monsieur qui vient vous voir, c'est Paul Darigrand. Oui. Paul Darigrand, donc en 1989, quand vous étiez étudiant en droit à Bordeaux, vous avez entretenu une relation clandestine, pourrait-on dire, avec ce jeune homme qui avait à l'époque 25 ans, qui était donc marié à Isabelle, j'imagine, qui était infirmière. Mmh. Mais ce qui est curieux, c'est que vous en avez déjà parlé de Paul Darigrand quelques mois auparavant, dans un certain Paul Darigrand. Alors, qu'est-ce qui vous arrive avec Paul Darigrand?
D'abord, je voulais raconter dans le premier, un certain Paul Darigrand, cette espèce d'amour irrésistible. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a un type qui se plante devant vous, vous comprenez qu'il n'est pas vraiment fait pour vous, ou qu'il est compliqué, mais c'est irrésistible. Vous y allez quand même. Vous savez que ça va être, que ça va sans doute mal finir, mais voilà, il a du charme, il a de l'allure, il a quelque chose en plus, et je rentre dans cette relation qui est effectivement une relation clandestine. Personne ne doit savoir. Et je vais vivre, cette relation incandescente.
Et c'est encore meilleur? Parce que c'est clandestin.
Oui, alors c'est à la fois frustrant parce qu'on voudrait dire au monde ce qu'on vit, et puis en même temps c'est agréable parce que ça n'appartient qu'à nous. Ça se joue précisément dans l'ombre et c'est agréable, voilà, et dans les draps et dans les lits, et bon, et c'est assez agréable. Mais c'est vrai qu'en tout cas cette histoire s'est terminée, et puis 18 ans après je le croise
par
hasard.
C'est lui qui a mis fin.
C'est lui qui a mis fin. Oui, c'est ça. Je me fais salement larguer, disons-le comme ça. Voilà. Et 18 ans plus tard, je suis dans une librairie à Montréal et je le vois surgir devant moi. C'est totalement inattendu, inopiné, et il me dit « Est-ce que tu m'en as voulu ?» Alors, je suis un peu surpris par la question, et en même temps je réponds non vite parce que j'ai pas envie d'entrer dans la conversation, puis il y a des gens autour, puis c'est compliqué. Et il me dit « Parce que moi, je m'en suis voulu. » Et Paul Darigrand, le premier livre, s'arrêtait là, sur cette phrase-là, « Moi, je m'en suis voulu. » La réalité, c'est qu'en fait, après cette phrase-là, je lui ai dit « Mais dînons ensemble. » Et puis après avoir écrit un certain Paul Darigrand, je me suis dit « Il faudrait raconter ce dîner, finalement. » Parce que ces retrouvailles étaient quand même assez saisissantes, assez étonnantes, assez bouleversantes à plein d'égards. Et puis ça pose des questions qui sont des questions assez fondamentales. Parfois, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? Est-ce que je l'ai trahi? Est-ce que j'ai trahi les promesses que j'avais faites? Est-ce que j'ai trahi l'âge des possibles où j'étais à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qui je suis devenu? Est-ce que finalement je suis assez fier ou pas trop de ce que je suis devenu? Est-ce que j'ai envie de la vie de l'autre?
Il a fait le choix de la raison.
Oui.
Et il le regrette, il semble le regretter en se disant, est-ce que j'aurais pas dû choisir l'aventure avec Philippe Besson?
Alors après, c'est ça la problématique, c'est que on choisit une vie et si on en avait choisi une autre, qu'est-ce qu'on serait devenu? C'est ce terrible et cruel jeu du what if, comme disent les Américains. Et si j'étais parti avec un autre? Alors il dit, et si j'étais parti avec toi, j'imagine que la vie aurait été effectivement bousculée, un peu compliquée, sans doute tumultueuse, et lui a choisi une forme d'embourgeoisement. Mais associé à cet embourgeoisement, il y a aussi de la plénitude, de la sécurité, et ça lui va bien, d'une certaine manière.
Et puis quand même une très très grande complicité avec sa femme.
Absolument, ils sont très très proches, il y a une très grande
connivence. Et là, la délicatesse d'aller fumer des cigarettes régulièrement dehors pour que vous puissiez vous parler.
C'est ça, elle permet les retrouvailles, elle accepte cela, elle sait sans doute que ça a compté pour son mari, elle sait que se joue quelque chose d'intime, et elle laisse cette intimité effectivement se jouer devant elle.
Jamais la jalousie n'apparaît.
Jamais. Non, ça n'est pas quelque chose qui les traverse, à aucun moment. Ni elle, ni lui, ni moi. On est dans autre chose. On est là pour faire le bilan de ces années écoulées et d'essayer de voir ce qu'on a fait du désir. Et en fait, la question du désir, c'est une question terrible, parce que Est-ce que le souvenir du désir, c'est encore du désir? Est-ce que le désir, ça s'éteint une fois pour toutes, ou est-ce que c'est toujours là un peu sous-jacent? Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui traverse aussi le livre.
Alors, il y a une question qui revient tout le temps dans votre livre aussi, c'est quelque chose d'important, parce qu'à cette époque-là, quand vous rencontrez Paul Darigrand, vous êtes malade. Mmh. Alors, ce n'est pas le sida, il faut le dire tout de suite, c'est une maladie, mais enfin, elle a l'air lourde et difficile. Mmh. Et ce thème-là était déjà présent en 2001 dans un autre livre, Son frère, que Patrice Chéreau avait adapté au cinéma en 2003.
Mon frère est malade.
T'as un frère ?
Un frère aîné, oui, ici à Paris. Il a chopé un truc. Il a voulu que j'accompagne. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est une rechute et qu'il a pas envie de se taper tout comme la fois d'avant. Enfin, j'imagine.
Mais c'est quoi ce qu'il a ?
Un truc dans le sang qui fait que tout peut péter d'un coup. Ça pète à un endroit, ça explose, c'est l'hémorragie. Voilà, mon frère est revenu pour me dire qu'il allait exploser. Tu sais, si je ferme les yeux, je vois la tête de Thomas qui part en arrière, comme si on lui avait tiré une balle à bout portant. Tu vois cette image de Kennedy dans le petit film amateur, là, avec la tête qui explose, le corps qui s'écroule. Quand je vois Thomas, c'est ça que je vois. C'est complètement con, non ?
Un frère, alors c'est vrai que Philippe Besson a un frère, et Aldo Nauri, vous vouliez poser, enfin je vous l'ai demandé, hein, merci d'avoir eu la gentillesse de le faire, je vous ai demandé de poser une question à Philippe Besson. Quelle est cette question ?
Mais ma question c'était, quelle est votre place dans la fratrie ?
Alors moi je suis le cadet, nous sommes deux, Olivier, mon frère, est l'aîné. C'est un garçon qui a toujours été brillant, donc j'ai toujours été dans son sillage, j'ai toujours été moins bien. C'est assez terrible parce que c'était quelqu'un qui a fait des études brillantes, qui suscitait l'admiration, le respect. Moi, j'étais plutôt le vilain petit canard. S'est marié, il a fait des enfants, moi non. Donc toujours eu cette espèce de position d'infériorité.
Son prénom.
Olivier. Mmh. Et c'est vrai que ça a toujours été curieux pour moi, alors que nous ne sommes séparés que d'un an. Donc nous sommes très très proches, mais pour autant très lointains. C'est-à-dire qu'on a eu des enfants, c'est des adolescences séparées, non pas physiquement, puisqu'on habitait dans la même maison et nos parents n'étaient pas divorcés, mais on ne se parlait presque pas. Ça m'empêche pas d'avoir pour lui une tendresse folle et presque que de l'amour, je pense que c'est de l'amour. Mais ce qui est curieux, et ça fait référence à Son frère, le film de Chéreau dont on vient d'entendre un extrait, c'est que quand il s'est agi d'écrire un livre qui s'appelle Son frère, je l'ai tué dans le livre. C'est-à-dire que c'est à lui,
c'est violent,
que j'ai donné la maladie. C'est lui dont j'ai fait un malade, et c'est lui que je tue dans le livre. Mais effectivement, 20 ans plus tard, j'écris un autre livre dans lequel je dis en fait le malade, c'était moi.
France Inter. Estivalitude. Christophe Bourseiller.
Yeah, je suis positif. Yeah, je suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So, je suis positif. Yeah, je suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Wow. Je veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que je travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. On garde le smile, pas juste pour la Nike. Faut mettre les efforts, yeah. Je m'échappe au Goliath, yeah. Et juste nous pour faire, c'est, yeah. J'essaie d'être comme personne, yeah. C'est pour ça que j'ai percé, yeah. Soupçon de percé, yeah. Plus une forme dans le cabanon, hey. First place au marathon. Pendant que tu fais des by round. Moi j'ai work hard, tu restes strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. Seul du bon pire matin. Rien à foutre des chioles. J'ai le talent, puis j'ai chance. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work my mi jour férié. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. J'vois que c'est les cours pour work le rap. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais un des rares. Mais non, la zik est pas pour faire.
C'est bien triste la vie, c'est pas comme un jeu. Des fois t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alex, on est bien heureux. Il faut work out pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir racheter du temps. Pour recommencer demain. Up, bang, up, bang.
Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Maman, maman dit dans la vie, sois pas négatif. So, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Oh, oh, j'veux pas avoir de remords. Même si c'est pour ça que j'travaille fort. Faire quoi de bien avant maman. Oh, oh, oh.
Une chanson rien que pour vous, Philippe Besson, c'est le rappeur québécois Fouki. Il a un petit accent quand même, on
absolument.
L'entend bien, oui. Dans Positif.
Vous avez dit que
vous avez dit.
Ah non,
vous avez dit.
De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt?
Moi, je dis une chose qui est assez simple. Il faut faire ce qu'a fait Sarkozy, c'est-à-dire un parti socialiste hégémonique qui emmerde le reste du monde.
J'ai dit ça, moi.
Vous avez dit ça il y a quelques années déjà. Hein. Mais cela dit, c'est vrai, bah, c'était dans le contexte de l'époque, hein, l'époque oui. où Sarkozy venait au pouvoir, où oui. vous souteniez Ségolène Royal. C'est vrai que Philippe Besson, vous êtes un homme engagé politiquement. Vous mmh. avez, je me souviens bien, soutenu François Mitterrand, mmh. Ségolène Royal. Et puis aujourd'hui, vous soutenez Macron, Emmanuel Macron. Alors, rapidement, parce que c'est pas évidemment l'objet de toute l'émission, mais pourquoi cette conversion vers Emmanuel Macron?
Je suis pas sûr qu'il soit une conversion. C'est-à-dire, je reste un homme de gauche. Quoi qu'il arrive, mon ADN, c'est ça, ma famille est de gauche.
Mais il y a une gauche macroniste, paraît-il.
Mais il y a une gauche macroniste. Et c'est vrai qu'effectivement, dans l'élection présidentielle de 2017, c'est vrai que je ne me suis pas retrouvé dans l'offre de gauche. Je ne me suis pas retrouvé entre Hamon et Mélenchon. Je me suis pas dit j'ai envie de ça. Ça me paraissait trop loin de moi, qui suis quand même plutôt un social-démocrate. Et j'étais intéressé par le côté transgressif de Macron, par le côté on renverse la table, par on essaye quelque chose qu'on n'a jamais essayé, par sa jeunesse aussi, par le côté inédit de la chose et aventurier. Moi, je suis un romancier, donc j'aime bien la dimension romanesque de la politique. Il y avait ça, je trouvais, en 2017. Et puis je comprenais que c'était plutôt lui qui avait une chance de battre Marine Le Pen plutôt que quelqu'un d'autre. Donc comme il fallait faire en sorte que Marine Le Pen ne soit pas élue, c'était lui.
Alors c'est vrai qu'on vous a vu dans un film qui s'appelait Les coulisses d'une victoire, réalisé par Yann Lénoret. Vous êtes, on vous voit autour de Macron le jour de la victoire, et puis vous avez publié un livre dans lequel vous racontez cette montée vers le pouvoir qui s'appelle Un personnage de roman. Mais juste une question, comment vous l'avez rencontré, Macron?
Dans un dîner, voyez, on y revient toujours, c'est drôle.
C'est ça.
En fait, c'était un dîner chez des amis communs, je le connaissais pas du tout. On m'a dit, il y aura Brigitte et Emmanuel Macron, c'est elle qui est arrivée en premier. On s'est entendu d'ailleurs tout de suite, on a parlé littérature, on a parlé de Madame Bovary, je me demande bien pourquoi. Et puis,
je vous ai pas dit Madame Bovary, c'est moi.
Non. J'aurais pu lui dire moi que c'était moi.
Ah oui.
Mais en revanche, après il est arrivé et puis j'ai été bluffé comme on peut l'être quand on le rencontre la première fois par son énergie, par son pouvoir de séduction. Il y a quelque chose chez ces hommes-là. Bon. Et donc, le dîner s'est passé de manière agréable. Moi j'ai tendance à dire des bêtises ou des horreurs dans les dîners, j'adore ça, essayer de plaisanter. Et j'ai senti que cet homme était assez sensible à ça. Donc on s'est dit on va se revoir, puis je pensais que c'était une promesse comme ça un peu en l'air, et puis on s'est revus, on est devenus proches, et du coup quand effectivement il s'est lancé dans la campagne présidentielle, il me dit est-ce que tu viendrais dans l'aventure, et je lui dis mais c'est dingue ton truc, tu vas jamais gagner, t'as aucune chance, enfin moi j'étais comme beaucoup de gens qui regardaient ça de l'extérieur en disant mais, en France c'est ou le type de gauche ou le type de droite qui gagne, mais pas un autre.
Est-ce que tu viendrais dans l'aventure, ça voulait dire quoi, de vous t'enrôler dans son parti, c'était quoi l'idée?
Non, c'était je pense, puisque tu écris des livres, est-ce que ça t'intéresse serait de venir écrire le livre de cette aventure-là. C'était un peu ça, ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'était tentant, parce que vous vous dites, bon, moi, j'avais jamais participé à une campagne présidentielle au cœur du réacteur, donc comme je l'avais jamais fait, moi, j'ai tendance à vouloir faire des choses inédites dans ma vie. Et puis, j'étais tellement convaincu qu'il allait pas y arriver, que c'était voué à l'échec, son truc, que c'était tentant, parce que lui avait l'air d'y croire. On m'aurait demandé de suivre la campagne d'un favori, ça m'aurait pas intéressé. Si vous connaissez déjà la fin de l'histoire au début, ça n'a pas d'intérêt. Là, voilà, j'y suis allé et il se trouve que le type a gagné.
Ce personnage, il a gagné. Ce personnage de roman est venu au pouvoir. Nous voici 2 ans plus tard. Vous êtes toujours derrière lui ou à côté de lui?
Il y a des choses qui m'intéressent dans ce qu'il fait, il y a des choses avec lesquelles je suis en désaccord. C'est-à-dire que sur les 18 premiers mois de son mandat, je trouve que ça a été un président de droite. Il a mené plutôt une politique libérale sur le plan économique, la réforme du droit du travail, de la SNCF, etc., la réforme de l'ISF. Bon, sur les 6 mois qui viennent de s'écouler, on sent que le curseur est devenu un peu plus social, puisqu'il y a eu ces 17 milliards qui ont été donnés sous la pression d'ailleurs de la rue et des gilets jaunes. Donc aujourd'hui, cette politique se rééquilibre un peu. L'idée que ça soit une politique et de droite et de gauche, c'est plutôt intéressant si on arrive à réconcilier un peu ça dans notre pays. Enfin, disons que je suis plus à gauche que lui.
Alors, on vous a demandé, Philippe Besson, de nous proposer un son qui vous résumait.
Ouais.
Alors ce son est assez curieux parce que c'est un morceau de Phil Glass, c'est ça ?
Ouais, absolument.
Pourquoi ?
Parce que c'est la musique du film Les Heures,
ouais.
The Hours, qui est un livre que j'avais adoré et qui est un film que j'ai adoré avec Julianne Moore, Meryl Streep et Nicole Kidman. C'est comme ça, c'est inspiré de Mrs. Dalloway. Mmh. Et j'aimais ces trois destins de femmes et la musique qui accompagne ce film est une musique très juste et très déchirante et elle m'a accompagné, moi, dans l'écriture de mes livres souvent. C'est-à-dire, je trouve qu'elle me met en situation d'écrire cette musique.
Alors on l'écoute. Voilà, Philippe Glass, le choix de Philippe Besson. Un Philippe répond à l'autre Philippe. Alors, c'est vrai, il y a un film qui est assez frappant, c'est Brokeback Mountain,
ouais.
Parce que c'est un film que vous avez vu à Montréal tous les jours pendant une semaine.
Oui, je suis entré dans un cinéma et je savais ce que j'allais voir parce que j'avais lu la nouvelle de Danny Proulx et je me demandais comment on pouvait faire un film avec cette nouvelle-là, qui est vraiment très courte. Et j'ai été... Sidéré, renvoyé là aussi à mes amours perdus, à mes amours inaboutis, aux choses ratées. Vous savez, c'est toujours cette question de j'ai aimé quelqu'un puis je l'ai perdu et qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ses regrets. Bon, cette histoire d'amour incandescente et d'amour impossible, ça m'a vraiment bouleversé. Donc je suis retourné chaque jour voir le film et je pense que je l'ai vu aujourd'hui 20 fois. Là aussi, la musique est magnifique. Ça fait partie des moments qui me définissent.
Aimer quand on est homosexuel, pardon de vous poser cette question, mais c'est différent selon vous de l'amour hétérosexuel de Paul Darry Grand, par exemple ?
C'est difficile de répondre à cette question-là. Alors c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu l'idée, en tout cas pour ma génération, moi j'ai 52 ans, que d'abord on ne se marierait pas. Alors maintenant on peut, mais moi quand j'avais 20 ans, je n'avais pas pensé que je me marierais. Donc il n'y avait pas l'idée de la durée
de la
et du contrat.
Oui.
Parce que le mariage, c'est quand même cette idée de contrat et de durée. Pour le pire et le meilleur. Enfin,
et
c'est
du coup,
ça.
C'était l'amour
donc,
le vrai.
Donc, du coup, il y avait quelque chose, c'était... Voilà, ça sera des choses comme ça qui sont...
plus
on fait ce qu'on veut, on est plus libre, peut-être, etc. Il y avait aussi l'idée qu'on était sans descendance. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous entrez dans une relation et que vous savez que vous n'allez pas créer un enfant, des enfants, c'est encore autre chose. Donc c'était un amour peut-être plus léger, plus libre, plus, mais en même temps plus inconséquent. Voilà, aujourd'hui les choses ont un peu changé, puisqu'on peut se marier, on peut adopter. Donc mais en tout cas dans ma jeunesse, oui, c'était un amour différent, me semble-t-il, oui.
Philippe Besson, je rappelle que votre livre Dîner à Montréal est sorti cette année chez Julliard. Vous restez avec nous parce que
absolument,
maintenant, on va poursuivre la discussion, mais plutôt avec Aldo Nauri. Il est là aussi, bien sûr. On a envie de l'écouter. En attendant, la toute dernière chanson de Joy Crooks s'intitule London Mine. Je vais y arriver un jour, hein, peut-être. Il s'agit d'un hommage aux immigrants d'Angleterre. C'est un peuple qui constitue, selon elle, l'identité de Londres.
Bangla noise on Brick Lane, that's the sound of my home. I'm a Mickey Athens, lovers walk or Kent Road. When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke. Holding down 9 to 5, and your weekends are spent loading up with the boys, with the bottle and Benz. Only way to cope, cause this city don't stop for no one. But that's what makes London mine.
street light down Madeira I go. I've been fooled by the charm of the cannons and mode. While the backstreet drama don't get picked up by the sun. That's what makes London mine.
Estivalitude sur France Inter.
Terrible catastrophe en Algérie. Le jour s'est levé à Orléansville sur une vision d'épouvante. Le tiers d'une cité qui s'était endormie heureuse n'était plus au matin qu'un amas de décombres. L'un de ces séismes imprévisibles qui laissent les hommes sans voix l'avait anéanti en quelques secondes.
Bonjour Aldo Naouri.
Bonjour.
Aldo Naouri, dans votre livre « Des bouts d'existence », c'est pas le premier livre d'ailleurs que vous consacrez à votre passé, vous en avez déjà publié un en 2013, et dans ce livre « Des bouts d'existence », vous révélez en fait de grandes parts de votre vie, dont le fait, et c'est pour ça que j'ai voulu, avec Juliette Médevielle, mettre un extrait de journal de l'époque, hein, bien sûr, sur le tremblement de terre d'Orléansville, parce que vous avez passé une grande partie de votre jeunesse en Algérie,
oui.
Vous avez été rapatrié en 1962, vous vous êtes rapatrié vous-même, et vous avez vécu personnellement le tremblement de terre d'Orléansville.
Ah oui, absolument, oui. Ah oui. Oui, je raconte d'ailleurs dans le livre.
Bah bien sûr.
Comment ma mère, dans la nuit, s'est mise à hurler, alors que nous étions tous endormis.
Et vous avez failli tuer toute votre famille, parce qu'il...
Oui, nous avions une maison dans laquelle on avait... il y avait une porte qui donnait sur la rue, et qui n'avait qu'une clé. Et celui qui sortait le soir... pour ne pas réveiller les autres, enfermait tout le monde et prenait la clé. Et je suis rentré...
Vous étiez allé au cinéma ce soir-là.
Au cinéma ce soir-là, et je suis rentré, il était 1h moins le quart, et le tremblement de terre a dû avoir lieu à 1h10 ou un truc comme ça, et je suis rentré plus tôt que je n'aurais prévu, vous voyez, je me suis dit, mon Dieu, si j'étais rentré plus tard, qu'est-ce que ce serait devenu, quoi, ça aurait été l'horreur.
Et c'est-à-dire que vous auriez, votre famille aurait disparu, et heureusement pour vous, ça n'a pas été le cas.
Voilà.
Alors votre histoire, moi je la trouve absolument fascinante, Aldo Naouri, parce que, en fait, il se trouve, c'est ce que j'ai découvert en lisant votre livre, que vous provenez de la communauté juive de Libye.
Oui.
Alors peut-être à tort, ou parce que je me fais des idées, pour moi la Libye était à peu près le dernier pays dans lequel il pouvait y avoir une communauté juive.
Mais la communauté juive de Libye datait déjà du temps du roi David.
Ah oui.
Vous vous rendez compte?
Ah oui, vous êtes
et que lorsque Rome a conquis la Libye, Rome s'est empressé de fabriquer 3 forts autour de Benghazi, qui était une énorme cité juive, pour ne pas qu'elle s'étende. Vous voyez, et donc c'est resté, c'était un pays qui était relativement désertique, donc il n'y avait pas une grande population, mais il y avait une population de l'ordre de 30 à 40 000 personnes.
Qui parle une langue spéciale, qui parle le judéo-libyen,
oui,
c'est ça?
Oui, mais le judéo-libyen, c'est comme le judéo-iranien, c'est comme le où que les juifs se soient installés, il y a toujours eu un judéo-quelque chose. Pourquoi? Pour pouvoir exprimer dans la langue du pays ces nuances qui sont propres aux juifs et qui sont inexprimables dans une autre langue.
Être juif de Libye, ça veut dire quoi pour vous?
Alors, j'ai longtemps pensé, très longtemps pensé, en raison des récits que j'ai recueillis, en raison du fait, moi j'étais le dernier de la famille, et donc quand nous avons immigré en Algérie, j'avais 4 ans, j'ai longtemps pensé que c'était ce que j'avais perçu de l'ensemble des récits qui m'étaient dit, qui m'étaient donnés. Et puis je me suis aperçu, il y a très peu de temps d'ailleurs, il y a peut-être 3 ou 4 ans, en discutant longuement avec une dame libyenne, que être juif de Libye, c'est pas différent que être juif de France ou d'Algérie. En fait, c'était pas ça. Nous étions des Libyens juifs.
Ah oui, vous étiez authentiquement libyen.
Nous étions authentiquement libyen, oui, parce que ça, je pensais qu'éventuellement toute la manière d'être de ma mère et toute la manière d'être assez peu banale, oui, ouais. et tout son discours était juif libyen. Eh bien non, c'était libyen et nous étions juifs par-dessus, c'est tout.
Alors je cite votre mère, pardon, oui. Mais pour moi c'est un peu comme citer un grand sage. Le comble de la prétention, c'est de réclamer une place au souk des péteurs sans même avoir de cul.
Voilà.
Alors quel est le sens de cette formule? Parce que j'avoue que je l'ai trouvée forte, je la trouve assez intéressante.
Mais c'est précisément, sans moyens, si on n'a pas de moyens, pourquoi est-ce qu'éventuellement on prétend, enfin c'est l'illusion du pouvoir.
Alors c'était la mère, c'est la mère toute puissante.
Oui,
elle est d'autant plus puissante que votre père n'est pas là.
Voilà, elle a été veuve à 34 ans, mon père était décédé, il avait 36 ans, d'une erreur de diagnostic médical, puisqu'il était diabétique et qu'il a fait un coma hypoglycémique auquel on a fait de l'insuline, alors qu'il fallait le réanimer du côté du sucre.
C'est pour ça que vous êtes devenu médecin?
Sans aucun doute, mais en fait, c'est très profondément installé au fond de mon inconscient, mais c'est possible. Je veux dire que je n'étais pas destiné à être médecin. Ma curiosité ne me menait pas de ce côté-là. J'étais beaucoup plus... j'étais un touche-à-tout, donc je ne savais pas. Au fin fond du trou d'Algérie où j'habitais, on n'avait aucune information. Donc je commence par me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'assois, un jour j'en parle à ma mère, enfin, justement, je me confie à elle, et je lui dis que je ne sais pas quoi faire. Et elle me dit, on était en juin 56, alors que la guerre d'Algérie a commencé en novembre 54, elle m'a dit, écoute, tu sais, la guerre d'Algérie, comme il y a une guerre en Algérie, l'Algérie sera indépendante.
Ouais, il faudra pour elle, c'était
évident. Il faudra que nous nous partions quelque part, nous ne savons pas où nous allons aller. Donc ce sera peut-être en France, peut-être en Amérique, peut-être au Canada, peut-être en Israël. Il faut faire un métier qui s'exerce dans tous les pays du monde. Et j'ai trouvé ça très intelligent. Et j'ai demandé, alors quel métier suggères-tu? Elle m'a dit coiffeur.
Ah oui, bien sûr, très, très bonne idée.
Alors j'ai hurlé, mais... à quoi ça aura servi? Alors elle insiste, elle me dit, il y a peu d'investissement, et c'est un métier relativement propre... C'est bien, et les gens ont toujours besoin de faire couper les cheveux. Très bien, mais pourquoi est-ce que j'aurais été bachelier? Elle me dit, tu auras de la conversation et donc beaucoup de clients. Et ça a été très amusant parce que c'est une chose que j'ai reprise dans mon analyse et le terme coiffeur allait bien au-delà de cela. Mais en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais aussi autant attiré par les lettres que par les sciences. Et puis, un de mes frères m'a dit, j'avais des frères beaucoup plus âgés que moi, écoute, fais des études de dentiste. Alors j'ai commencé mes études de dentiste, et puis j'ai fait la première année, puis je me suis dit, mais un dentiste, ça soigne seulement la bouche, d'abord. Ensuite de ça, j'avais jamais mis les pieds chez un dentiste, je savais pas comment c'était. Je me dis, non, il vaut mieux tout soigner, donc je vais faire médecine.
Puis vous aviez quand même une bonne école avec votre mère, parce que je note,
c'est un grand médecin.
Ah oui, c'est un grand médecin. Quand nous étions malades, ma mère venait nous lécher le front et cracher à gauche et à droite.
Voilà.
Ça marche, ça, non? C'est très efficace.
Quand on était adulte et qu'on était déprimé, on allait la voir en disant, lèche-moi.
Et ça marchait?
Ah ben, c'était le côté maternant, délicieux, surtout que si qu'elle cracha à droite et à gauche n'avait aucune espèce d'importance, c'est ce qui se termine terminée. Une fois qu'elle avait fait ça sept fois, elle disait « Je t'ai léché comme la vache lèche son veau, comme la brebis lèche son agneau, comme etc. etc. » Et elle énonçait une quantité de femelles animales qui léchaient leur bébé. C'est-à-dire, elle se situait dans la merde animale qui apporte à son enfant le plus possible.
Et vous êtes devenu médecin. Vous avez oui. Médecin, un vrai médecin dans les hôpitaux.
Tout enfin, à fait, oui.
Mais vous êtes aussi devenu un pédiatre, quelqu'un qui s'intéresse à l'esprit. Vous avez fait une psychanalyse.
Oui, oui.
Et au fond, votre mère, c'était déjà une adepte de la guérison par l'esprit.
Ah, mais d'ailleurs, quand je lui ai raconté que je faisais une psychanalyse, elle m'a regardé un peu étonné et je lui ai expliqué ce que c'était. Et elle m'a dit « Ah, ça, c'est excellent ». Elle me dit « Mais ce qui m'inquiète, c'est que tu racontes tes rêves. » Et elle me dit « Je vais te raconter une histoire ». Elle m'a raconté une histoire. Elle avait des centaines d'histoires, vous savez. Hein, elle me raconte une histoire qui était stupéfiante d'intérêt, parce que c'était littéralement l'analyse du contre-transfert. Donc, en gros, elle me disait « Il ne faut pas raconter son histoire à quelqu'un tant qu'on n'est pas assuré qu'il vous aime. »
Ah, c'est joli.
Alors, il ne faut pas raconter ses rêves.
J'ai pensé à vous, Aldona Houri, parce que j'ai un disque pour vous.
Oui.
C'est Moon Martin dans Bad Case of Loving You. Ça s'appelle, entre parenthèses, Docteur Docteur.
Hot summer night. I got a bad
Moon Martin, Bad Case of Loving You. La programmation musicale est signée, bien entendu, Muriel Pérez.
Vous avez dit que j'ai
rien. Vous avez dit
que... Mais vous m'avez rien dit.
Parce que c'est faux.
C'est vrai. Bah évidemment que c'est vrai.
Je dis, si vous voulez que votre enfant soit un démocrate plus tard, soyez fasciste avec lui.
Alors écoutez, c'est fort comme phrase, hein, Aldo Nahouri. Ça, vous l'avez dit à France
mais
Info il y a quelques temps.
Mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas la suite?
Ah bah parce qu'on voulait faire une citation courte, mais vous pouvez dire la suite, allez-y.
La suite, c'est si vous l'élevez en démocrate, il sera fasciste.
C'est ça, hein.
Ah mais c'est ça l'important.
C'est ça l'idée.
Si
vous ne donnez pas des limites à l'enfant, si vous n'êtes pas autoritaire en quelque sorte...
Si vous ne lui mettez pas de limites, il pensera que de toutes les façons, c'est lui qui fixe, qui est en pouvoir, et deviendra fasciste.
Alors c'est un
peu au cœur
de vos
idées. Alors que si jamais vous lui mettez des limites,
oui.
Qui est précisément la chose la plus épouvantable dans un régime, c'est-à-dire précisément cette manière de dire fasciste, à ce moment-là, il n'aura qu'une seule envie, c'est précisément de franchir ses limites, de sortir de lui-même et de pouvoir éventuellement aller vers les autres. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, comment faire comprendre dans un système éducatif qui a abandonné complètement la responsabilité parentale face aux enfants et qui estime que les enfants ont déjà leur génie en eux-mêmes, ils sont capables d'eux, etc., etc. Comment restaurer ça pour dire aux parents, il est très important que vous encadriez votre enfant et que vous lui disiez que de toutes les manières, il n'est pas question qu'il cède à son système pulsionnel dont il a hérité et que l'humanité a mis 7 millions d'années à éventuellement maîtriser. Il faut lui apprendre à maîtriser ses pulsions pour devenir un être social. Et pour cela, vous ne pouvez être que fasciste.
Et vous dites, vous allez encore plus loin, parce que vous dites qu'il y a trop de permissivité dans l'éducation, et vous dites mai 68 est l'émanation de la toute-puissance infantile.
Exactement, je continue, je le maintiens. Et je le maintiens, et je pense qu'un jour, on m'en donnera raison. Pourquoi ? Pour une raison simple, si vous voulez, il faut partir de l'historique qu'on a oublié. Mouvement du 22 mars.
68,
c'est-à-dire, il faut que les garçons puissent rentrer dans le pavillon des filles.
De la cité universitaire de Nanterre,
Dans toutes les cités universitaires, depuis tout le temps... il était interdit aux garçons de rentrer dans les pavillons des filles, et tous les garçons rentraient dans les pavillons des filles. Il n'y a jamais eu de problème. D'accord? Mais il a fallu, là, se faire reconnaître un droit. Ça signifie quoi? Précisément. Sinon, précisément, la manière dont le gamin tape sur la table en disant, j'ai le droit! Et ça, je l'ai vu tellement souvent dans ma clientèle. C'est-à-dire, ce gamin qui, lui, effrayé par la toute-puissance qu'il attribue à sa mère et dont il pense qu'éventuellement elle est capable de le tuer aussi bien que de le faire vivre, va dresser contre elle sa propre toute-puissance. Alors on appelle ça, selon les écoles, la période d'opposition ou la période, si vous voulez, où il rentre en contradiction la position.
Oui, c'est la révolte. La révolte. La révolte. Oui.
Et il va déployer justement cette illusoire toute-puissance en essayant de dire qu'il a tous les droits. Et là, on se trouve devant un système éducationnel dans lequel, pendant très très longtemps, les mères savaient qu'il fallait les limiter, ces enfants-là. Mais aujourd'hui, on a mis l'enfant au sommet de la pyramide familiale depuis
l'enfant
déjà
roi.
Bien avant. L'enfant roi, c'est devenu l'enfant roi. À ce moment-là, on a des mères qui sont des prêtresses. Et ces prêtresses de ces enfants rois font que on ne limite pas sa toute-puissance et il va vouloir exercer sa toute-puissance tout le temps. Vous voyez ? Et on arrive, si vous voulez, en 68, à ces adolescents qui ont été élevés sans qu'il y ait eu, à aucune espèce de moment, de limite à leur illusoire toute-puissance.
Philippe Besson, vous réagissez comment quand vous écoutez Aldo Nahouri ? Parce que ça, il y a du vrai, je trouve, dans ce qu'il dit. C'est vrai que si on ne pose pas des limites à un enfant, finalement, il le dit avec violence, mais quelque part, ça fait passer le message, on fait du fascisme.
Oui, moi j'entends ce que vous dites et c'est drôle parce que moi j'ai été élevé par deux parents qui ne fonctionnaient pas du tout de la même manière. C'est-à-dire j'avais mon père qui était mon instituteur. Donc lui fixait les règles, il fixait les bornes, il fixait les frontières. D'ailleurs, pendant la classe, je lui disais monsieur et vous de 9h à 4h30 le soir, c'était monsieur et vous, c'était la figure d'autorité et je lui obéissais, et il m'a fixé les règles. De l'autre côté, j'avais une mère qui était elle assez permissive, très libérale, qui me permettait tout et donc ça a fabriqué ce que je suis devenu. Donc je sais pas si c'est grave docteur ou pas d'avoir des parents comme ça. Enfin je les ai aimés tous les deux, j'exprime ma gratitude, mais est-ce que c'est grave ?
Si vous voulez, on laisse de côté le mot grave, d'accord ? Mais ça explique éventuellement ce que vous êtes devenu.
Ouais.
Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que quand votre père intervient avec l'autorité, etc., il s'adresse directement à vous.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il s'adresse à une partie de vous qui est capable de recevoir son message, mais qui le reçoit, il n'est pas passé par le filtre maternel qui autorise cette parole à s'inscrire dans l'individu. Mm-hmm. Vous le recevez avec la crainte, vous, et de la distance, etc., etc., beaucoup plus intellectuellement oui. qu'affectivement et que inconsciemment. Et parce que pour que la parole d'un père et l'autorité d'un père puissent éventuellement intervenir, il n'a pas besoin de l'exercer. C'est quand elle passe par le propos de la mère. Oui. Mais pourquoi est-ce que le propos de la mère est tellement important ? Parce qu'à l'intérieur du cerveau du bébé pendant la gestation, il y a un appareil sensoriel qui fait le bébé et l'enfant oui. extraordinairement sensibles aux propos de sa mère.
D'accord.
Et d'ici donc, la mère fait filtre et ne transmet pas les propos du père, eh bien, tout simplement, ça ne marche pas au niveau inconscient.
Alors là, ça devient évidemment complexe et je voudrais simplement, ça m'intéresserait peut-être que vous répondiez à Aldo Nahouri oui. Brièvement parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, notre émission s'approche bientôt de son terme. Philippe Besson, vous aviez une question à poser oui. à Aldo Nahouri qui d'ailleurs va tout à fait dans le sens oui. de ce qu'il vient de dire.
En fait, ce qui est drôle, c'est que moi j'ai été un enfant menteur, c'est-à-dire oui. que j'inventais des mensonges, je tricotais des fictions qui étaient suffisamment élaborées pour que ma mère finisse par y croire et pour se débarrasser de sa peur, elle n'arrêtait pas de me dire arrête avec tes mensonges. Et donc, je voudrais savoir si c'est grave ou pas d'avoir été ou d'être un enfant menteur, ou est-ce qu'au contraire, il faut que les enfants mentent quand ils sont dans leur, justement dans leur jeune enfance.
Écoutez, c'est extrêmement difficile de vous répondre pour une raison simple, c'est que si je vous réponds, ça serait presque...
C'est pas binaire, ça voulait dire.
Bon, je rentre dans l'intimité, dans la mesure, si vous lui parlez de grave. Laissons de côté les mots graves.
Ouais.
Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Il se passe quelque chose, si vous voulez, c'est que, comme tout enfant, dans la mesure où vous aviez deux discours parentaux qui étaient discordants, c'était pour vous un écartèlement. Et cet écartèlement était tel qu'en définitive, il vous était difficile de vous réunir. Et la seule chose qui pouvait vous réunir, c'était la fiction.
La fiction.
Voilà. Et je dirais volontiers, si vous voulez, que cette fiction vous a habité suffisamment pour que vous en ayez fait une production aujourd'hui.
Absolument.
Ouais. D'accord ? Et donc, vous racontiez, vous essayiez au métier d'écrivain, enfin, au métier de romancier.
Dès l'enfance.
Dès l'enfance.
Je crois
pour
ça.
Pouvoir,
ouais.
Pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas cet écartèlement terrible. Voilà.
Eh ben écoutez, Aldo Nahouri, merci d'avoir répondu à Philippe Besson. Et puis je rappelle le titre de votre livre, donc qui est sorti récemment chez Odile Jacob, Des bouts d'existence.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors je vous rappelle que nous sommes en plein mois d'août, enfin c'est quand même une chose qu'il faut souligner, donc il semble, certains sont en vacances, pas nous, mais non pas nous, parce que nous sommes d'éternels travailleurs, certains sont en vacances. Philippe Besson, j'aimerais bien que vous nous disiez, peut-être brièvement évidemment aussi, votre plus incroyable souvenir de vacances, c'était quoi ?
C'était simplement l'été de mes 17 ans, en fait. C'est une sorte de premier amour comme ça qui arrive. Je sors détruit de mon premier amour et je suis dans l'île de Ré où j'ai passé pas mal de temps quand j'étais enfant et adolescent. Et là, je me laisse aller pour la première fois une forme de sensualité innocente, débridée. Voilà, il y a de la désinvolture dans tout ça. J'ai beaucoup aimé cet été 84 dans l'île de Ré.
L'été de la désinvolture. Aldo Nahouri, c'était quoi votre plus incroyable souvenir de vacances ?
Le plus marquant, en
tout cas. Le plus marquant,
ça a été quand j'avais 22 ans et que je revenais de mes premières vacances qui avaient été prises en Italie. Et j'étais avec celle qui allait devenir mon épouse, transportée par un copain. Nous avons eu un énorme, énorme accident de voiture dans lequel on a eu failli rester tous les deux. Mon épouse et moi, enfin, c'est ma fiancée et moi. Et ces vacances avaient été terriblement difficiles, parce que c'était la première fois que nous passions autant de temps ensemble, elle et moi, et je m'étais dit, ça ne peut pas marcher. Donc j'avais l'intention de l'abandonner, enfin de mettre fin à notre...
Ah, vous voyez, c'était un voyage de rupture, en quelque sorte.
Non, au retour, ça devait être la rupture.
D'accord.
Et là, je me suis dit, je ne vais pas la ramener à ses parents en leur disant, elle est cassée, mais je vous la laisse.
Évidemment, c'était délicat.
Donc, j'ai assumé de façon kantienne, et j'ai passé ma vie à être heureux d'avoir fait ça, parce que c'était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée.
C'était la femme de votre vie.
C'est la femme de mon vie.
Ah bah écoutez, quelle histoire. Merci beaucoup de nous avoir raconté cet événement-là. Il vous est arrivé une autre histoire étonnante que vous racontez dans votre livre. C'est que vous êtes un jeune médecin, vous tombez amoureux d'une jeune patiente, une jeune malade, et puis quelques mois plus tard, par hasard, c'est dans vos études de médecine, c'est absolument horrible ce que je vais raconter, vous êtes obligé de la disséquer.
Ah non, c'est pas ça, vous déformez tout. Amoureux, nous étions trois jeunes étudiants qui avions dans
Vous la courtisiez.
Dans un lit, on a rencontré une jeune fille à laquelle on s'est mis à faire la cour alors que même il n'y avait aucun espoir. Et c'était, on était vraiment, on avait l'impression de vibrer, littéralement. Et le lendemain, on nous a envoyé faire une autopsie. Et c'était elle.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Besson et Aldo Naouri. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Je vous en remercie. Je rappelle que votre livre, Philippe Besson, Dîner à Montréal, paru aux éditions Julliard, est en librairie depuis le 29 mai. Aldo Naouri, vous avez donc publié Des bouts d'existence aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez, bien entendu, réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et le plus important arrive, la réalisation, c'est Juliette Medevielle. La préparation, c'est Saad Merzak et Astrid Landon. Et à la technique, il y avait Nicolas Delmas. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. C'est notre force, on est là tous les jours. Juste après le flash, vous retrouverez, petit chanceux, Laurent Delmas pour Ciné qui chante. Messieurs, dames, à demain.